faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Le record du monde de saut à la perche n'appartient plus à un Français. Hier, à Bratislava, le soviétique Sergueï Boubka a en effet réussi un saut de 5,85 m, battant donc de 2 cm le record que détenait Thierry Vigneron depuis le 1er septembre 1983.
Ainsi, à l'aube des années 80, a surgi Sergueï Boubka. Jeune perchiste ukrainien, il a précédé de quelques mois l'arrivée de Mikhaïl Gorbatchev au pouvoir à Moscou. Et malgré lui, Sergueï Boubka fut le fils de la perestroïka et de la glasnost. Il fut l'incarnation d'un empire soviétique qui espérait encore briller de mille feux, mais qui déjà lorgnait du côté capitaliste. Sergueï Boubka, le marteau, la faucille et les liasses de dollars. Alors cette semaine, pour disséquer la vie et le destin de Sergueï Boubka, deux invités au micro d'Inter. Tout d'abord, il fut champion olympique de saut à la perche en 1996 à Atlanta. Il a affronté Sergueï Boubka à plusieurs reprises. Jean Galfion, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Et bienvenue à vous, Jean. À vos côtés, un historien spécialiste du sport en Union soviétique, Sylvain Dufraisse, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous aussi, bien entendu. Et puis, juste avant le journal de 19h, la victoire en chantant de Pierre-Étienne Minonzio à l'affiche ce soir, natation et chansons d'amour, curieux programme. Vous êtes bien sur France Inter, dans l'émission qui vous raconte la grande histoire du sport, à l'affiche ce soir, Sergueï Boubka, le perchiste soviétique, guest tsar.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Ce soir, on commence avec une archive de 1967, direction l'Ukraine soviétique, contrée où a grandi Sergueï Boubka, né non loin de Donetsk en 1963. Boubka a donc 4 ans quand une équipe de la télévision française débarque dans son pays pour en dresser un portrait. Alors à quoi ressemblait le monde dans lequel a grandi le futur champion ?
Le Kolkhoz Octobre, 28 000 hectares, terre infinie sous un ciel infini, dans la région du Kouban, au sud de l'Ukraine. C'est l'une des terres les plus généreuses de l'Union soviétique. Céréales, betteraves, tournesol, vignes, cultures vivrières, ici tout semble jaillir sans effort. Dans ce Kolkhoz vivent 6 000 personnes, dont environ 3 000 travailleurs. Devant le bâtiment administratif au cœur du village, le tableau d'honneur avec les portraits des travailleurs méritants. Parmi eux, Dimitri Petrovitch Tarasienko, conducteur de tracteur, chef d'équipe. Dimitri est un paysan modèle. L'an passé, il a été décoré de l'ordre Lénine. Distinction très rare. Jusqu'à ce jour, seuls 5 membres du Kolkhoz y ont eu droit. La récompense est purement honorifique. Dimitri l'a obtenu pour avoir produit avec son équipe, 3 années de suite, 350 quintaux de betteraves à sucre à l'hectare. Dimitri, un homme heureux. Depuis 2 ans, il est membre du parti. En Union soviétique, il y a un communiste pour 20 habitants. Nous lui avons demandé s'il ne préférerait pas être indépendant, propriétaire de son bétail, de ses champs, comme l'était son père avant la révolution.
Voyez-vous, c'est mieux de travailler dans un kolkhoz que d'être un paysan indépendant. Je n'ai pas besoin de penser au lendemain. Si un malheur arrive, un incendie de la maison, eh bien le kolkhoz m'aidera à la reconstruire en me donnant des subventions.
Ce dimanche matin-là, dans le palais de la culture au kolkhoz, on baptisait selon le rite communiste. En guise d'eau bénite sur le front, un foulard rouge noué autour du cou. C'est la présentation des nouveaux-nés à la communauté. Ce baptême n'est pas obligatoire. Ainsi se perpétue le régime soviétique, un demi-siècle après la révolution d'octobre.
L'Ukraine soviétique, le grenier à blé de l'URSS, mais aussi le pays de l'homme qui sautait plus haut que les autres. Voici l'histoire du dimanche soir. Helsinki, août 1983. Championnat du monde d'athlétisme en Finlande. Sur la piste, un jeune homme de 19 ans, joufflu et fruste, porte le maillot rouge soviétique frappé du marteau et de la faucille. Sergueï Boubka est inconnu du grand public, Mais à la surprise générale, le gamin décroche la timbale, première marche du podium. La presse ne l'a pas vraiment remarqué. On sait qu'il est ukrainien, discret, et personne ne se doute de son fabuleux destin. 2 ans plus tard, à Paris, au stade Jean Bouin, Sergueï Boubka grave sa légende dans le marbre. Il est le premier perchiste au monde à franchir les 6 mètres. Attraction médiatique.
Boubka, c'est l'homme des coups de poker. Le premier de sa carrière émane des entraîneurs soviétiques. En 83, ils veulent rajeunir leur équipe de perche pour le championnat du monde d'Helsinki. Krupski, le champion d'Europe, est fatigué, il restera à la maison. Et on emmène un jeune de 19 ans, jamais sorti de son pays, Boubka. L'illustre inconnu devient champion du monde avec 5m 70. L'année suivante, en 84, il bat 4 fois le record du monde avec 5m 85, 5m 88, 90 et 95. Seul vigneron s'intercale dans cette série avec 5m 91, le temps d'un quart d'heure seulement lors du meeting de Rome en août, Boubka saute juste derrière, 5m 94. Les atouts de Boubka, grâce à une puissance athlétique hors pair, il utilise des perches beaucoup moins flexibles que les autres, mais surtout une force psychique déconcertante, confondue souvent avec une innocente insouciance. C'est ainsi qu'hier, il arrive à minuit à l'aéroport de Paris, n'a pas d'hôtel, se lève tard le matin pour apprendre qu'il concourt en début d'après-midi et non en soirée comme il l'avait prévu. Peu importe, il mange avec un lance-pierre, fonce au stade, puis c'est l'insolence. Premier saut à 5m 70, quand Collet et Krupski y plafonnent, il passe largement et avec ce seul saut dans les jambes, demande 6 mètres. 3 essais et on connaît la suite.
Et oui, à Jean Bouin, au stade Jean Bouin, Boubka en 85 franchissa cette barre inaccessible des 6 mètres à la perche. Jean Galfion, vous êtes un ancien perchiste, champion olympique, médaille d'or à Atlanta en 96. Vous êtes né en 71, Jean. Autrement dit, vous étiez adolescent quand Sergueï Boubka a surgi sur les pistes d'athlétisme. Quel souvenir vous en avez, Jean Galfion? Qu'est-ce qu'il représentait pour vous, Sergueï Boubka?
Lorsque Sergueï Boubka a franchi 6 mètres à Jean Bouin, du côté de la porte de Saint-Cloud, moi je commençais tout juste le saut à la perche. Et j'étais à l'école justement pas loin de la porte de Saint-Cloud, et donc j'allais avec l'école sur ce stade. Donc en effet, c'était un coup de massue qui était tombé sur le monde de l'athlétisme, le premier homme à 6 mètres. Et c'était surtout un coup de massue qui était tombé sur la tête des Français, parce qu'à l'époque, c'était les Français qui dominaient la perche mondiale, et c'était Thierry Vigneron, Pierre Quinon, c'était des gens comme ça qui avaient imaginé être les premiers. C'était la course aux 6 mètres, comme on allait être les premiers hommes à marcher sur la Lune, quoi. Et c'est Sergueï Boubka qui a planté le drapeau de l'Union soviétique à 6 mètres ce jour-là.
Sylvain Dufraisse, vous êtes vous historien, spécialiste du sport, entre autres, en Union soviétique. Vous êtes un peu plus jeune, vous étiez dans les années 80, mais néanmoins, vous étiez enfant et adolescent quand Boubka a surgi sur la scène internationale. Quel souvenir vous en avez, vous, de ce sportif soviétique à l'époque?
Alors, pour moi, en fait, Boubka est complètement associé aux souvenirs d'enfance et aux meetings télévisés au Stade 2 du dimanche soir et à ces figures impressionnantes, en fait, que le sport soviétique a réussi à produire, que j'ai ensuite étudié dans ma thèse. Donc, pour moi, en fait, c'était vraiment ce que pouvait produire de mieux l'Union soviétique en matière de sportifs. Et également une figure assez finalement assez souriante, assez accessible et assez populaire.
C'était, il avait une gueule d'ange quand même.
Oui, c'était loin d'être le soviétique, le couteau entre les dents.
Oui, absolument. Revenons quelques instants aux années 60 et découvrons alors où en était le saut à la perche quand Sergueï Boubka est venu au monde. Hein, il est né en 63, je le disais. Alors voici comment l'ORTF en 63 présentait la discipline.
En 1942, l'américain Warmerdam franchissait 4,77 m au saut à la perche avec une perche en bambou. Remarquez dans ce saut record la rigidité du bambou. Par comparaison, nous vous montrons maintenant un saut de Maurice Ouvion, qui utilise une perche en fibre de verre, en fiberglace, dont les étonnantes qualités de flexibilité ont permis de sensibles progrès de cette spécialité en pleine évolution dans le monde. Il y a quelques semaines, le lieutenant de Marines américain Jim Thorke a porté le record du monde à 4,92 m. Mais les connaisseurs prétendent que si Warmerdam avait pu bénéficier d'un engin moderne, il aurait dépassé les 5 mètres. Les perches en fibre de verre sont fabriquées aux États-Unis. Elles sont constituées par un amalgame de nylon et de résine et valent la coquette somme de 60 000 anciens francs chacune. Avec ces nouvelles perches en fiberglace qui ont permis une extraordinaire progression, les 5 mètres sont pour demain.
Et oui, Jean Galfione, à l'époque, en 63, on visait les 5 mètres. Vous l'avez dit, Jean, les 6 mètres, c'était un peu décrocher la lune, ce qu'a fait Boubka. Qu'est-ce qu'il avait de particulier en tant que perchiste, Sergueï Boubka ?
Première chose, c'était un physique hors norme, c'est-à-dire qu'il était capable de courir 10 secondes 2 au 100 mètres. Il avait une force explosive très impressionnante. Il était capable de battre les meilleurs lanceurs de poids sur certains exercices. Enfin, il avait cette puissance énorme et en même temps une technique de course qui lui permettait de prendre des perches très dures. Après, techniquement, une fois qu'il avait décollé, c'était pas un chef-d'œuvre. Il faisait le travail, bien sûr, mais il basait tout et plus sa carrière avançait et plus il a basé sur la puissance et la vitesse. Et encore aujourd'hui, quand on voit ses sauts, c'est très impressionnant. On a l'impression qu'on est en vitesse accélérée quand il saute. On était tous influencés par cette façon de faire, hein, travailler la puissance, la vitesse, prendre des perches dures. Les choses ont évolué depuis, mais c'était ce qui avait vraiment marqué l'évolution de la perche russe. C'était pas le seul qui essayait d'apporter cette puissance et dans le saut. En tout cas, lui, il le faisait de manière incroyable. Et ensuite, il avait un moral. C'était un guerrier sur un sautoir, quoi. Après, vous dites gueule d'ange. Moi, je l'ai connu pendant des années. Si, le couteau entre les dents, il l'avait. Oui. C'était quelqu'un de dur et très dur sur un sautoir. Il parlait très durement avec ses proches. Il était très très pointu sur le moindre détail. Il était extrêmement rigoureux dans sa gestion de son entraînement. Il avait une faculté à encaisser énormément de grosses séances et en même temps, il n'en lâchait jamais. Il était capable de faire des nuits blanches pour pouvoir s'entraîner. S'il partait à 4h du matin pour un vol, il allait faire sa séance avant, etc. Enfin, c'était quelqu'un qui était vraiment d'une rigueur dans l'entraînement absolue et qui marchait avec une volonté et une rage qu'il a forgé évidemment dans ses jeunes années en Ukraine.
Alors justement, revenons à ses jeunes années. Sylvain Dufraisse, je l'ai dit, il est né en 63, Sergueï Boubka, en Ukraine, à l'époque soviétique. Dans quel monde il a grandi ? À quoi ressemble son enfance à Sergueï Boubka ?
Alors, il est né à Lugansk, donc une ville qui est une ville industrielle, une ville qui fait partie un peu du cœur industriel de l'Ukraine. Hein, c'est proche du Donbass, là où dans les années 30, Stakhanov avait fait ses prouesses. Donc, il est né dans une région en Ukraine très soviétisée. Et il appartient à un milieu qu'on pourrait dire de classe moyenne stabilisée en URSS. Son père est militaire, sa mère travaille dans les services sociaux. Donc ça fait partie de ces individus qui ont finalement bénéficié du régime soviétique, qui ont pu accéder à des conditions de vie meilleures dans les années 60-70.
Alors Sylvain, dès les années 60, l'URSS s'est intéressée au saut à la perche. Pour quelle raison et avec quelle ambition ?
Alors, tout d'abord parce que le saut à la perche en athlétisme, ce n'est pas un bastion de l'URSS dans les années 50-60, c'est plutôt un bastion américain, par exemple avec les champions comme Bob Richards. Mais cela s'explique aussi par la question des conditions techniques, en fait, puisque, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il faut avoir des technologies spécifiques pour pouvoir construire les perches. Or, les soviétiques, dans les années 50, ont quand même pas le même niveau technologique et sont pas forcément orientés sur la production de perches pour le saut à la perche. La domination soviétique, elle arrive plus tard. Hein. C'est dans les années 80 que les soviétiques sont très performants en saut à la perche. Il y a aussi une volonté symbolique, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Et c'est comme le 100 mètres en course.
C'est-à-dire qu'il est question de savoir quel est l'homme ou soviétique ou impérialiste qui peut sauter le plus haut. C'est-à-dire que l'enjeu est colossal. C'est-à-dire qu'on a un débat quasiment idéologique autour de la perche.
Exactement, c'est l'homme qui va aller le plus haut comme celui qui court le 100 mètres et l'homme le plus rapide du monde. Donc ça, c'est des bastions à conquérir.
Absolument. Jean Galfione, vous avez commencé votre carrière internationale au milieu des années 80, enfin sur la fin des années 80, c'était encore, on va dire, une forme de guerre froide, sur la fin en tout cas. Vous avez croisé des athlètes soviétiques dans vos concours. Quel regard vous portiez sur eux ? Est-ce qu'il y avait encore une tension Est-Ouest entre vous et les autres ?
Alors, quand j'ai commencé, en effet, moi, j'ai découvert tout ça. Hein. J'étais un jeune sportif de 18 ans quand je suis fait mes premiers championnats d'Europe. Et en effet, c'était en 89, donc il y avait la délégation russe. Et c'était assez... je découvrais la géopolitique, tout simplement. Mm-hmm. Et il n'y avait pas de tension. Non, il y avait des différences culturelles, des différences de se préparer physiquement, enfin sportivement avant la compétition. Mais on distinguait pas de choses qui étaient éloignées non plus dans le comportement et dans la discussion. Malgré que tout, c'était difficile la communication parce que peu de Russes parlaient anglais à cette époque. En revanche, c'est vrai que quand on se retrouvait en meeting, en compétition, j'ai toujours ressenti, même c'est pas ressenti, je l'ai vécu, cet affrontement les Russes contre les Américains. Donc quand on se retrouvait sur une phase finale, et ben j'avais souvent les Russes qui venaient me voir en me disant faut battre l'Américain, faut battre les Américains. C'était quelque chose qui était resté et ça me faisait sourire parce que moi j'étais pas imprégné de ce conflit, de cette guerre froide, mais néanmoins ils étaient très proches, beaucoup plus proches envers moi culturellement, et il fallait pas laisser gagner les Américains. C'est comme ça.
Mm-hmm. On imagine, Sylvain Dufresne, que Boubka avait un rôle essentiel aux yeux du régime soviétique. En revanche, est-ce qu'on connaît les rapports qu'avait Boubka avec le comité central et Moscou? Est-ce qu'il avait des rapports avec le parti et l'Union soviétique?
Comme c'est quelqu'un qui semble finalement assez droit par rapport au régime, et qu'il est finalement plutôt orthodoxe avec la ligne du parti, ce n'est pas quelqu'un qui a subi un contrôle extrêmement fort, extrêmement rapproché. Ensuite, comme tous les autres sportifs, il fallait aller chercher des médailles, il fallait aller chercher des records, et donc il y a cette commande de l'État de pouvoir faire briller le drapeau de l'Union soviétique et de défendre en fait l'honneur des citoyens soviétiques à l'étranger.
Si je peux intervenir.
Allez-y, Jean.
Alors, lorsqu'il a fait 6 mètres à Paris, il a touché une prime de performance qu'avait proposé Raymond Loire, l'organisateur du meeting de Paris. Et cette prime, à l'époque, l'Union soviétique récupérait l'argent que touchaient ses athlètes, ça revenait pas aux athlètes. Et lui, il n'était pas très d'accord, il trouvait pas ça normal. Et il y a une partie qui est jamais revenue en capacité déclarée, quoi. En gros, qui est restée en Europe et qu'il a ensuite récupéré plus tard, où il s'est arrangé avec l'organisateur du meeting pour que déjà, il y avait déjà l'aspect businessman qui commençait à ronger au fond de lui, quand même.
Sylvain Dufresne. Il faut aussi voir le contexte, en fait. À partir de 85, Gorbatchev arrive au pouvoir et c'est la perestroïka. Et cette perestroïka, elle a des effets, en fait, sur le monde sportif, puisque c'est un moment de contestation interne en Union soviétique du modèle du sport de très haut niveau et de l'argent investi en fait uniquement dans le sport de haut niveau. Beaucoup en fait critiquent à la fois les pratiques qui ont été utilisées, ça c'est Vlasov qui vient de mourir ou Terovanessian qui vont dénoncer le dopage dans certaines disciplines, mais aussi beaucoup dénoncent l'argent investi aux dépens du sport pour tous. Et donc ici c'est aussi un moment où il y a moins d'argent pour le sport de très haut niveau en URSS et donc où les sportifs sont obligés de changer leur manière aussi d'aller chercher de l'argent pour pouvoir financer les équipes autour d'eux et les gens qui les aident dans la performance.
Alors justement, Sylvain Dufresne, on va écouter un extrait d'archives qui évoque cette nouvelle méthode chez Boubka lors de différents meetings pour essayer de gagner de l'argent au fur et à mesure des records battus.
Le football ne doit pas nous faire oublier l'exploit encore un, réussi par l'athlète soviétique Boubka. Pour la deuxième fois en 3 jours, il a battu son record du monde du saut à la perche en salle, 6m11. Le record précédent était de 6m10. Christian Bidner, c'est fantastique.
Oui, on peut dire fantastique. C'est 20 cm de plus que l'athlète qui a réussi la deuxième performance de l'année. C'est un autre soviétique qui a passé 5m91. Bon, ça veut dire que Boubka plane littéralement au-dessus du saut à la perche, dont il a déjà battu 23 fois le record du monde qu'il a pris à Vigneron en 84. Le record du monde à l'époque était de 5m83 en plein air. Il a fait progresser le record en salle de 30 cm, ce qui est fabuleux. Et il faut le noter, centimètre par centimètre. En tout cas, jamais plus de 2 cm à la fois. Il faut dire qu'à chaque fois qu'il bat un record du monde, il touche une grosse prime, Boubka. Alors, il ne brûle pas toutes ses cartouches à la fois. Autrement,
ça met cher le centimètre.
Ça met assez cher le centimètre, oui. À peu près 200 à 300 000 francs, selon les organisateurs de meeting, qui prévoient toujours, Boubka vient, s'il bat le record, il y a une prime en plus. Donc, il est bien organisé, parce qu'il aurait pu demander, par exemple, hier soir, à 6 m20. Mais non, il s'est arrêté à 6 m11. Parce que 6m20, tout le monde l'a vu, et depuis longtemps, il les a dans les jambes. Il peut passer 6m20, ce qui porterait le record du monde à des hauteurs complètement inaccessibles, et ce qui en ferait pratiquement l'égal de Bimon, le mythique Bimon du saut en longueur.
Jean Galfion, est-ce que vous êtes d'accord avec cette théorie? Est-ce qu'il avait 6m20 dans les jambes, Sergueï Boubka, à l'époque?
Alors, oui et non, je suis pas d'accord du coup avec cette critique qui a été faite tout au long de la carrière de Sergueï, bien qu'il y ait quelque chose de vrai là-dedans, bien sûr. Mais en fait, au saut à la perche, comme au saut en hauteur, quand on connaît un petit peu le sport, ces sports-là, on tente les records toujours, un ou deux centimètres au-dessus. Parce que quand on se retrouve seul sur dans un concours, on demande la hauteur qu'on veut. Dans le fait de Sergueï, lui, il expliquait de manière autrement. Il disait simplement, en effet, il finançait ses records du monde, ce qu'on peut imaginer, mais que s'il avait fait 6 mètres 20, en effet, il les avait dans les jambes, ça je suis d'accord. 6 mètres 20 en début de carrière, comment il avait peur de perdre sa motivation pour à chaque fois se dépasser, parce que même s'il valait peut-être un peu plus, il fallait quand même accepter psychologiquement de battre son propre record, de battre un record du monde, et c'est 34 records du monde dans lesquels il s'est mis dans ces conditions. Et il a gardé une motivation intacte, parce qu'il savait qu'il pouvait battre son propre record personnel et se surpasser, alors que parfois, 6 mètres 20, peut-être que ça aurait été quelque chose d'inaccessible, peut-être qu'une fois dans sa vie. Et puis autre chose, je voulais dire par rapport à ça, on parle beaucoup du fantasme de l'argent. Ok, il gagnait de l'argent à chaque record du monde. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que déjà à l'époque, il faisait déjà pas mal de business autour de la mer Noire. Et il avait une ribambelle de machines à sous qui lui rapportaient beaucoup, beaucoup plus que ses records du monde. Donc c'était presque un détail, honnêtement, ses primes.
Jean, à partir des années 90, vous avez donc concouru beaucoup avec Bubka, parce qu'il n'a pris sa retraite qu'en 2000. Le mur de Berlin était tombé. Donc vous étiez une jeune génération, la génération suivante, Jean Galfion. Est-ce que Bubka a joué le rôle d'un patriarche qui pouvait transmettre des choses, ou est-ce qu'il est resté un concurrent jusqu'au bout?
Alors, il faut bien comprendre que Bubka, il était sur un sautoir pour écraser tout le monde. Il n'était pas là pour se faire des amis.
D'accord.
Et même à côté du sautoir, c'est-à-dire avec les autres perchistes, nous, on se retrouvait quand on allait manger à l'hôtel ensemble. On faisait une table de sauteurs à la perche, ou voire parfois on allait boire un verre ensemble, ça pouvait arriver, mais jamais avec Sergueï. Sergueï n'était jamais avec nous. Ça ne l'intéressait pas. Il était déjà dans une autre sphère d'intérêt. On ne veut pas dire qu'il nous aimait pas, hein, mais on l'intéressait pas. On lui apportait rien, hormis de la concurrence. Et il rentrait pas dans ce clan. Donc il m'a jamais manqué de respect. On a toujours été, il y a toujours beaucoup de courtoisie, mais parce qu'il me craignait pas beaucoup. Et les fois où on s'est rapproché, il a eu affaire un petit peu, on a discuté. C'est quand il se retrouvait tout seul sur un meeting où il n'avait pas son entraîneur ou son frère ou quelqu'un qui s'entraînait pour lui donner le vent, des marques de passage, des petits repères techniques. Donc là, j'avais un intérêt pour lui, mais hormis ça, il a toujours été très respectueux malgré tout, mais il n'était pas là pour se faire des amis du tout.
On va faire une pause musicale avec le groupe londonien Jungle, le titre joué dans le jukebox ce soir sur Inter, Keep Moving, ainsi soit-il.
du tigre.
6 mètres, le soviétique Sergueï Boubka a réussi hier l'exploit rêvé de tous les perchistes. Il était 18h45 au stade Jean-Bouin et le meeting de Paris était presque terminé. Les 4000 spectateurs, déçus par une organisation hésitante, attendaient la fin du concours à la perche.
Philippe Collin.
À 5,70 m, Boubka daignait enfin effectuer un premier saut, franchi très facilement. Boubka demande alors à tenter directement les 6 mètres. Au premier essai, il heurte la barre des jambes. Au deuxième, il la frôle des épaules. Enfin, le troisième essai sera le bon et le record historique des 6 mètres est enfin établi.
Sur France Inter.
Sergueï Boubka fut donc l'homme des 6 mètres franchis en 1985. Ensuite, en concours ou en championnat du monde, Boubka a régné sans partage sur le royaume du saut à la perche pendant 15 ans. Enfin, sans partage, ce n'est pas tout à fait exact. Dans la carrière mirifique du tsar soviétique, il existe un rendez-vous manqué, comme une malédiction. Ainsi, tous les 4 ans, Sergueï Boubka est passé à côté.
Bon Michel, grâce à vous, on a vécu pratiquement en direct l'un des grands événements de ces Jeux de Barcelone 1992. Coup de tonnerre sur les Jeux Olympiques, l'homme aux 30 records du monde qui a été éliminé en 3 essais secs, j'allais dire, Sergueï Boubka à la perche. Qu'est-ce qui lui est arrivé?
Eh bien, il lui est arrivé tout simplement que Boubka a été incapable de franchir la moindre hauteur cette année, enfin dans ce concours. Et c'est la première fois que cela lui arrive depuis 1984. Il gagnait tout, il survolait cette discipline. Et puis aujourd'hui, le vide, le trou noir. Peut-être peut-on expliquer cette contre-performance par le fait que Boubka n'est pas, comme à l'habitude dans les meetings, arrivé très tôt sur ce sautoir. On l'attendait plutôt pour un début de concours aux alentours de 5m90, comme à l'habitude. Et puis là, il nous a fait une première surprise en se présentant à 5m70. Il est parti, il a complètement raté son premier saut. Et puis au deuxième essai, là encore, nouvel échec et très net. Il est complètement retombé sur la barre. Il a tenté le coup de poker, Sergueï Boubka, en gardant son troisième essai pour 5m75. Il est encore retombé sur la barre. C'est incroyable, la déroute des favoris dans ces Jeux Olympiques. Ils s'écroulent tous.
Ouais, ils sont tous tombés, mais tout de même de moins haut que Sergueï Boubka, victime sans doute d'un complexe de supériorité.
Alors Jean Galfione, c'est un mystère, mais c'est ainsi, hormis les JO de Séoul en Corée ou en Corée du Sud, où Boubka a été médaille d'or. Ensuite, toutes les années 90, 92 à Barcelone, 96 à Atlanta, vous en savez quelque chose. Jean, vous êtes médaillé d'or. Même 2000 à Sydney, il est passé complètement à travers les Jeux Olympiques, Boubka. Pour quelle raison, Jean? Est-ce que ça fait écho à ce que vient de dire Bertin? Est-ce que c'est un complexe de supériorité?
Non, alors je pense, dans ce qu'on a entendu, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait exactes. Hein. 92, en effet, Sergueï Boubka, c'est peut-être là où il est le plus fort, où il domine le plus la discipline. Il faut bien savoir que même pour Boubka, dans une saison, ça arrive de faire 1-0 ou 2, c'est-à-dire on franchit aucune hauteur, parce que c'est une discipline où il y a beaucoup de réglages, très techniques, on peut être perturbé par un peu de vent, des choses qui sont infimes, et ça va vite, hein. 3 essais, ça va très très vite. Là, le fait est, c'est que en meeting, il se retrouvait souvent tout seul, très tôt, puisque à 5,90, il n'y a plus beaucoup d'autres perchistes, et il avait en gros, le temps qu'il voulait pour se préparer entre chaque saut, il prenait à peu près 10 minutes entre chaque saut pour se déshabiller, enlever ses chaussures, mettre son survêt, aller souffler, boire un coup. Enfin, il se remettait vraiment à zéro complètement en intensité pour tenter ses sauts. Là, au jeu, on avait, à l'époque, c'était un peu plus long qu'aujourd'hui, il y avait 2 minutes. Et il rate son premier essai parce que un peu trop près à l'impulsion, ça c'est des choses techniques, ça arrive surtout sur les grands championnats où on en rajoute un peu inconsciemment. Il doit reculer sa marque, sauf que le saut d'après, il a plus que 2 minutes, moins de 2 minutes pour sauter, et ça il se retrouve dans une situation un peu inhabituelle pour lui, qui le perturbe parce qu'il est encore essoufflé, il arrive en bout de piste essoufflé, il n'arrive pas à reprendre le contrôle un petit peu de ce qu'il fait, et ça lui échappe, comme je vous dis, c'est 3 sauts, ça va extrêmement vite, un saut trop près, un saut, une perche trop souple, et le troisième essai, il met tout ce qu'il a, inconsciemment, il en met beaucoup, parce que c'est que c'est les jeux, tout se joue sur ce saut, il passe une fois encore trop près à l'impulsion, donc il peut pas redresser, une perche évidemment dure, et il retombe sur la barre. Moi, ce que je retiens dans les Jeux Olympiques pour Sergueï Boubka, une fois encore, il a raté donc 3 fois les Jeux Olympiques, 3 rendez-vous en tout cas, Mais néanmoins, Séoul, quand il gagne sur un dernier essai à sa première barre à 5,70. C'est une barre qui rebondit dans tous les sens sur les pieds. Et il était aujourd'hui, avec le nouveau règlement, il aurait jamais été champion olympique. Et là, ça aurait été assez incroyable pour un homme qui a été 6 fois champion du monde.
Sylvain Dufraisse, je rappelle que vous êtes historien et spécialiste du sport en Union soviétique. Quand on regarde la carrière de Sergueï Boubka, on a parfois le sentiment que ça peut faire écho à celle de l'Union soviétique. Hein.
Oui, en fait, dans son corps de sportif, en fait, viennent à la fois percuter la politique internationale et la politique nationale.
Sylvain, c'est vrai que c'est devenu un grand businessman. Il a une entreprise qui était très diverse. Il y avait du bâtiment, il y avait des machines à sous, comme dit Jean Galfion, il y avait de la vodka, c'était devenu une sorte de, peut-être presque d'un cliché de l'après-empire soviétique, d'un capitalisme galopant qui s'est emparé de l'Europe de l'Est.
Oui, il fait partie en fait de cette génération des élites post-soviétiques qui émergent dans le contexte de la perestroïka et qui flaire en fait les bons coups à faire, en
les,
fait,
opportunités.
Les opportunités et aussi en fait sa dimension internationale en fait l'a finalement acculturé aussi à toutes ces dimensions là et donc c'est une des raisons pour lesquelles ensuite il est devenu un homme d'affaires. Mais il faut pas non plus aussi aller dans le fantasme de l'Ukraine post-soviétique ou de la Russie post-soviétique où voilà tout était mafia, etc. En fait, c'est un homme de sa génération finalement et qui appartient aux élites post-soviétiques.
Allez-y, Jean.
Pardon.
Allez-y,
Jean. Enfin, je sais que je suis allé une dizaine de fois à Donetsk pour sa compétition et que son rapprochement avec la mafia locale était réel. Hein. Nous, on assistait à des choses qui n'étaient pas ambiguës sur ses relations et ce qui se passait en interne. Donc, du coup, il savait aussi comment s'organiser pour faire du business avec la mafia locale. Donc, Sergueï, il a toujours su ou essayer en tout cas d'être dans les bons coups, on va dire, politiques, business. Et ça a été... je crois que même encore aujourd'hui, il fait de la compétition de haut niveau dans tout ce qu'il essaye d'entreprendre pour savoir quel est l'intérêt, où il faut être et vers qui il faut se rapprocher.
Sylvain Dufraisse, on vient de prononcer le mot politique. À la fois, c'est effectivement un homme d'affaires qui a fait de bonnes affaires, Sergueï Boubka, et assez vite, après sa retraite sportive, il devient député au Parlement ukrainien. C'est quoi la trajectoire politique de Sergueï Boubka? Où est-il au moment de l'élection en 2002 et qui est-il aujourd'hui politiquement, Sergueï Boubka?
Alors, donc, en 2002, il est élu député à la Rada, donc à l'Assemblée nationale ukrainienne, dans une coalition électorale finalement qui n'a pas forcément une dimension idéologique très marquée. Ici, c'est un parcours finalement assez classique de sportifs qui réinvestissent son capital sportif dans le capital politique. Et puis pour ces colistiers, c'est aussi un moyen d'attirer des votes en fait par une figure très connue. Ensuite, il évolue plutôt vers le Parti des Régions. Donc le Parti des Régions, c'est plutôt un parti pro-russe, mais ça s'explique aussi par son implantation locale, puisqu'il vient de la région de Lugansk, de Donetsk.
Du Donbass, en fait.
Du Donbass, donc une région qui était plutôt pro-russe et qui était le fief électoral du Parti des Régions. Et il devient conseiller pour le président Yanukovych, celui qui a quitté le pouvoir en 2014, après les manifestations et puis après tous les événements qui ont touché l'Ukraine en 2014.
Et la Crimée, bien sûr. Comment se positionne Boubka aujourd'hui, Sylvain Dufraisse? Est-ce qu'il est nostalgique du grand empire, de la grande nation soviétique? Est-ce qu'il est pro-Poutine? Est-ce qu'il est justement tente au contraire d'apaiser les tensions en Ukraine? Est-ce qu'on sait aujourd'hui où il se situe?
Je crois que maintenant, l'Ukraine n'est plus forcément son lieu majeur d'action politique, puisque il a maintenant une carrière dans les fédérations internationales. C'est quelqu'un maintenant qui est actif au sein du CIO, au sein de la Fédération internationale. Et finalement, peut-être là, les questions politiques ukrainiennes pourraient davantage lui nuire, en fait, qu'elles lui apporteraient des soutiens.
Et puis, il avait d'autres choses à faire, quoi. En effet, enfin, faut bien savoir que Sergueï, je crois que depuis 92, je crois qu'il est parti d'abord habiter à Budapest, puis ensuite à Monaco. Donc, il est quand même éloigné de la vie réelle ukrainienne, même si, évidemment, il est très impliqué. Il a essayé d'aider le sport ukrainien, il essaie de s'impliquer ensuite plus sportivement qu'autre chose.
En tout cas, après avoir pris sa retraite en 2000, Boubka s'est montré beau joueur, notamment en 2014. lorsqu'à Donetsk, chez lui, en Ukraine, le Français Renaud Lavillenie est venu battre son record, son vieux record de 6m14, décroché par Boubka en 94, justement. Et donc là, il fut grand prince ce jour-là.
Je pense que c'est un grand jour, c'est une performance fantastique et je suis très content que Renaud ait obtenu ce résultat ici, dans ma ville natale. Avec ses 6m16, il bat le record du monde et il met en lumière cette discipline et porte haut cet événement sportif. Et donc je suis très content et très fier de lui. Renaud est un grand athlète, un exemple, et j'espère qu'il va continuer à marquer l'histoire du saut à la perche.
History of pole vault. Bon, disons, Jean Galfione, qu'une fois sorti de la compétition, Boubka est un grand prince.
Non, mais là, il fait de la politique. Il faut bien comprendre aussi quelque chose, que Sergueï Boubka, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai. Quand il est rentré à la commission des athlètes à l'I2AF, il a fait voter, il a défendu une modification du règlement technique sur le saut à la perche, sur lequel, si cette mesure avait été appliquée au moment où lui sautait, il n'aurait jamais été champion olympique. C'est-à-dire, il a fait voter, enfin en tout cas, il a soutenu le fait de raccourcir la longueur des taquets sur lequel on pose la barre. Et également, il a fait en sorte qu'on ait moins de temps. Il a fait en sorte que la barre soit plus difficile à laisser sur les taquets lorsqu'on la touche, etc. Donc derrière, là évidemment, il fait de la politique. En plus, il était en train de viser la présidence de la Fédération internationale d'athlétisme. Donc c'est tout son intérêt qu'il y ait un record du monde à Donetsk pour montrer à quel point c'est la plaque tournante de la performance, puisque en effet Donetsk c'était un endroit incroyable pour sauter à la perche et donc derrière il peut que soutenir Renaud Lavillenie en 2014, mais je pense que ça aurait été dans les années 90, ça aurait pas été le même discours, hein.
Absolument. Sylvain, une réaction?
C'est aussi, je pense, pour, comme l'a dit Jean Galfione, faire de ce lieu un centre de la perche mondiale, puisqu'il a aussi organisé tout un ensemble de manifestations sportives d'ampleur internationale autour du saut à la perche à Donetsk. Et donc le fait d'accueillir en fait un nouveau record du monde est un moyen de mettre la lumière sur cette ville-là également.
Pour conclure, Sylvain Dufraisse, quelle place occupe aujourd'hui Sergueï Boubka dans la mémoire post-soviétique? J'entends par là, dans l'ex-empire soviétique, il a été une grande figure de réussite. Est-ce que dans la mémoire russe, il reste des traces de Sergueï Boubka? Il paraît qu'à Donetsk, il y a une grande statue de Boubka qui est plus grande que celle de Lénine, qui était posée quasiment côte à côte. Quel est le statut aujourd'hui de Boubka en ex-Union soviétique?
Boubka, en fait, est comme l'ensemble des champions qui ont fait vibrer le public soviétique. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'attachement à cette grandeur passée. Et en Ukraine, ça reste un champion aussi ukrainien. Donc finalement, que ce soit les Ukrainiens ou les Russes, en fait, se retrouvent dans cette figure mémorielle du sport soviétique, ou ensuite de l'émergence, en fait, de l'Ukraine. Puisqu'il a aussi été un sportif qui a imposer en fait l'Ukraine indépendante dans les compétitions internationales.
Merci à vous deux d'être venus ce soir. Vous retrouverez Jean Galfione l'automne prochain comme skipper sur la Transat Jacques Vabre. Maintenant, Jean Galfione fait de la voile. Quant à Sylvain Dufraisse, plongez-vous dans ses travaux historiques sur le sport en Union soviétique, c'est passionnant. Merci à vous deux en tout cas, merci beaucoup.
Merci. Merci.
Le corps tassé, les parchemins sur nos visages, ceux qui racontent la vie passée, tous les succès et les naufrages, et nos mains qui tremblent au vent, comme des biggins au pas léger, continueront de battre le temps sous des soleils endimanchés. Un jour viendra, on fera vieux os, des bégonias sur le balcon, un petit air de calypso, photo sépia dans le salon. Malgré la vie, le temps passé, malgré la jeunesse fatiguée, personne ne pourra empêcher nos corps usés de chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Avant que le printemps se fasse automne, que l'on s'éloigne de la rive, on scratchera du gramophone, quelques ritournelles caraïbes. On s'épuisera sur le dance floor en de petits pas économes, tant que sera levé le store, nos palpitants seront métronomes. Elles me reviennent les années folles, quand on mourait seulement de rire. Oh, rappelle-toi du Malécon, le clapotis de nos souvenirs. Un jour viendra cette ritournelle, quand ma voix se sera envolée. Je te supplie en souvenir d'elle, de continuer à chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper.
Chaloupé, chanson signée Gaël Faye. On poursuit en musique avec la victoire en chantant le rendez-vous de Pierre-Étienne Minonzio, plume de l'équipe, notre partenaire cette année et ce soir, natation. Pierre-Étienne, bonsoir.
Bonsoir Philippe et bonsoir à tous.
Alors, quel est l'objet de votre chronique ?
Eh bien, comme les championnats d'Europe de natation se disputent actuellement à Budapest, je me suis dit qu'il était grand temps de vous révéler quels sont, selon moi, les plus belles chansons d'amour de la chanson française ayant pour cadre une piscine.
Comme le petit pull marine toucher le fond de la piscine d'Adjani.
Écoutez, ne le prenez pas mal, Philippe, mais enfin, j'ai essayé d'être un tout petit peu plus original. Okay. En vous parlant, par exemple, des VRP, un groupe de rock alternatif, Footrack, que j'ai vénéré dans mon enfance. Leur deuxième album, l'indépassable « Retire les nains de tes poches » en 1990, se concluait par le titre « Ta sœur », à ne pas mettre entre toutes les oreilles. Cette chanson parle d'un homme qui a donné rendez-vous à sa dulcinée au bord du petit bassin, mais qui, au moment de la retrouver, est troublé par la présence inopinée de sa cadette.
Nous avions rendez-vous à la piscine, toi et moi tous les deux, sans mes copains, sans tes copines, tous les deux en amour. Ta sœur mongolienne, ta sœur schizophrène, ta sœur a tout gâché, la raison m'a quitté.
Et vous appelez ça une chanson d'amour?
Mais d'une certaine manière, oui, c'en est une. En tout cas, ce morceau a le mérite de rappeler qu'une piscine est un lieu idéal pour faire naître une idylle. En effet, malgré l'odeur de chlore qui y règne, malgré le manque de glamour des bonnets de bain et des lunettes de plongée, les jeux ludiques pratiqués dans les bassins favorisent, disons, les rapprochements. C'est ce que racontait en 2016 le titre « La piscine » du groupe Septembre, qui était accompagné d'un clip splendide tourné dans l'ancien centre nautique d'Avignon.
Je te tirais par le bras, je voulais que tu plonges avec moi dans un regard où je chlorais.
Honnêtement, vous connaissez beaucoup de love stories qui ont débuté dans un centre nautique?
Non, mais j'en connais certaines qui ont volé en éclats là-bas.
Ah.
Puisque dans des piscines, on croit souvent des maîtres nageurs imposants, des apprentis naïades ou encore des plongeurs de haut vol. Soit autant de figures séductrices susceptibles de fragiliser l'équilibre d'un couple. Alors le sujet paraît léger, mais il a donné lieu en 2011 à une chanson bouleversante. Piscine de François and the Atlas Mountain.
Allons à la piscine demain, je passe te prendre ou bien tu viens. Nous passerons par quatre chemins, avec toi je sais bien. Te voyant dans les eaux du grand bassin, te voyant dans la foule et puis plus rien. À l'ombre d'une estrade, tu t'assieras, tu regarderas tomber des tigres musclés et tu penseras. À nous, tu nous noieras.
Si je comprends bien les paroles, Pierre-Étienne, la fin du couple est ici évoquée à travers sa possible noyade.
Oui, de nombreuses chansons qui évoquent la natation mettent en avant, de manière métaphorique, les risques de noyade qui l'accompagnent. Vincent Delerme s'est démarqué de cette tendance en 2004 lorsqu'il a comparé le caractère répétitif des histoires d'amour qui ont effectivement toute tendance à se ressembler avec ces nageurs et ces nageuses qui enchaînent en musique les mêmes acrobaties dans le cadre de ce qu'on appelait autrefois la natation synchronisée. C'est aussi le titre du morceau de Delerme.
Nous avons révisé les accords de Yalta juste à côté d'une robe en lin. Et nous avons mélangé Serge Ibruguera avec le blocus de Berlin. Nos histoires d'amour sont les mêmes, comme si nous avions pratiqué dans des piscines parallèles la natation synchronisée.
Alors Pierre-Étienne, que retenir de ces quatre chansons nautiques finalement si différentes ?
Que dans une piscine, vous êtes susceptible de rencontrer votre âme sœur, ou la sœur de votre âme sœur, ou encore la personne qui va vous amener à quitter votre âme sœur. Le tout sous le regard d'un compositeur qui verra alors dans les pratiques nautiques une métaphore de nos vies amoureuses.
Eh bien vous me raconterez parce que je ne vais jamais à la piscine. À dimanche prochain Pierre-Étienne.
À dimanche prochain.
Salut. Et voilà, cette 34e émission de notre saison 6 a été mise en onde ce soir par H2M Henri Marc Mutel. Merci Marco, assisté ce soir à la technique de Ludovic Asselot. Merci à lui, merci à toute l'équipe de L'Œil du Tigre. Merci à Arnaud Jamin et Margot Page qui préparent cette émission avec moi. Merci à Thierry Dupin pour la programmation des Scuds et merci à Loïc Saulnier pour l'animation de nos réseaux sociaux. Vous nous retrouvez sur Twitter avec le compte L'Œil du Tigre et sur franceinter.fr bien sûr pour catcher le podcast. On se retrouve la semaine prochaine avec Paolo Pasolini, les communistes et le football en Italie à la fin des années 50. Un voyage au XXe siècle, un récit passionnant. Rendez-vous dimanche à 18h10. D'ici là, passez une excellente semaine sur Inter. Salut et fraternité. Après le journal de 19h, vous retrouverez les petits bateaux de Noël Bréham.